Dans un article de 2018 de Roy Michaud intitulé L'auto-évaluation et l'évaluation par les pairs en enseignement supérieur, promesses et défis, les auteurs affirment que l'évaluation par les pairs est une approche pédagogique pédago-centrée qui était déjà prônée bien avant l'implantation de l'approche par compétences. Les chercheurs se sont questionnés sur les raisons qui expliquent pourquoi elle semble si peu utilisée en enseignement supérieur. Il y a un vieil adage qui dit que pour enseigner un concept, on doit réellement en saisir l'essence. Mais qu'en est-il de l'évaluation par les pairs? Dans quelle mesure peut-on demander à nos étudiants et étudiantes d'évaluer des productions de leurs pairs? Qui peut prétendre se substituer à l'expertise de l'enseignant? Quelle valeur a cette évaluation aux yeux des étudiants? Et surtout, quelle est la valeur ajoutée à l'apprentissage de cette pratique? Ce sont toutes des questions qu'on a entendues à maintes reprises dans notre entourage professionnel, auxquelles nous avons choisi de répondre aujourd'hui dans le cadre de ce balado qui a pour titre L'évaluation par les pairs à l'aide du numérique, regard croisé sur une pratique déclarée et qui est réalisée dans le cadre de la revue Médiation et médiatisation. Ce balado porte donc sur le thème de la coévaluation des apprentissages en contexte de formation à distance asynchrone. Et pour en parler, nous avons la chance d'avoir avec nous ce matin une formatrice qui nous partagera un témoignage d'une situation d'évaluation par les pairs qu'elle a vécue avec ses étudiants et étudiantes. Nous aurons aussi une chercheure spécialisée en évaluation ainsi qu'une conseillère technopédagogique qui animeront les discussions sur les retombées de cette situation sur l'apprentissage, mais aussi sur la valeur ajoutée des outils numériques à cette situation d'évaluation par les pairs asynchrone. Bref, après une présentation du contexte dans lequel se déroule le cours intercalé de questions, nous présenterons un récit du déroulement de la situation d'évaluation par les pairs et s'ensuivra une discussion sur la valeur ajoutée de cette pratique à la lumière du modèle SAMR de Puente-Dura 2006. Je vais donc laisser d'abord le soin à mes collègues de se présenter.
Oui, je me présente Marie-Josée Dubois. Je suis chargée de cours à l'Université de Sherbrooke dans la Faculté d'éducation. J'ai complété une maîtrise en évaluation des compétences de l'Université de Montréal et je suis également enseignante des mathématiques au secondaire.
Oui, je suis Isabelle Nizet, professeure titulaire à la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke et je me spécialise dans la construction des savoirs professionnels en évaluation. Donc, ma spécialité, c'est vraiment l'évaluation des compétences et des apprentissages dans les différents ordres d'enseignement.
Merci. Et pour ma part, je suis Marie-Ève Desrochers. Je suis conseillère technopédagogique au pôle d'innovation technopédagogique de la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke depuis 2018. Également, je suis professionnelle de recherche et jadis chargée de cours au département de pédagogie. Donc, mes principaux intérêts touchent l'évaluation des apprentissages intégrant le numérique, l'alignement technopédagogique et la formation à distance. Et je serai la principale animatrice de ce balado. Donc, pour commencer, je vous propose d'écouter le témoignage de Marie-Josée, notre formatrice à la maîtrise en enseignement secondaire qui enseigne à distance en mode asynchrone le cours PED 898 qui s'intitule « Évaluation en situation authentique » dans lequel les étudiants sont amenés à développer la compétence à évaluer les apprentissages de leurs futurs élèves. Elle nous exposera les rouages de la situation d'évaluation par les pairs intégrant les outils numériques qu'elle a mis en place avec ses étudiants et ses étudiantes. Alors, Marie-Josée, pourrais-tu commencer par nous parler un peu des particularités du contexte de formation dans lequel se déroulait ton cours?
Oui, donc comme tu l'as dit tout à l'heure, mon cours s'insère dans la maîtrise qualifiante en enseignement secondaire, donc un cours qui est donné complètement en mode asynchrone. Le programme s'adresse à des personnes qui ont probablement déjà une expérience en enseignement, mais pas nécessairement au niveau secondaire ou pas nécessairement au Québec non plus. Donc, ils ont une certaine expérience, mais doivent compléter leur crédit pour pouvoir obtenir aussi leur brevet d'enseignement. C'est une clientèle donc d'âge très varié, une clientèle évidemment adulte. Comme tu le disais aussi, le cours se donne complètement en mode asynchrone, donc sur la plateforme Moodle que l'université a choisie. Le cours cible trois compétences, donc la première qui est évaluer les apprentissages, évidemment, mais également mobiliser le numérique et agir en accord avec les principes éthiques de la profession. Donc, aussi, à travers tout le programme, les étudiants doivent compléter un portfolio d'apprentissage dans lequel ils vont montrer l'évolution de leurs apprentissages à travers tout le programme et à chacun des cours, ils reçoivent de la rétroaction aussi de leurs enseignants.
Et combien d'heures de travail par semaine considères-tu que les étudiants ont à mettre sur le cours?
Donc, c'est un cours de 45 heures de 3 crédits. Donc, on peut estimer un 9 heures de travail là, par semaine environ pour ce cours. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir une portion où ils vont avoir des apprentissages à réaliser via des lectures, des écoutes vidéo, etc. Ils vont avoir une portion un peu plus de mise en pratique et à chaque module, en fait, comme le cours est monté sur 5 modules, donc à chaque module, il y aura une situation d'évaluation qui vont pouvoir conclure le module, en fait.
Et en ce qui a trait, en fait, là, tu parlais des activités pédagogiques puis de leur format. Maintenant, tu parles des activités aussi d'évaluation qui s'inscrivent dans ces différents volets du cours. Est-ce que tu pourrais nous dire concrètement en quoi consistaient ces activités d'évaluation-là?
Donc, il y a eu des forums qui ont été évalués, donc dans lesquels on veut développer l'analyse critique, des réflexions, l'argumentation sur des enjeux en évaluation. Ensuite, il y a eu des aspects un peu plus reliés à la théorie où là, on a un travail individuel où on a voulu, par exemple, analyser ou concevoir un test format examen avec des items, en respectant évidemment la construction. Ensuite, il y a aussi eu l'utilisation, en fait, l'analyse critique d'un outil numérique d'évaluation, donc à travers le programme qui s'est fait en équipe. Et dans le dernier travail, c'est-à-dire la conception d'une grille descriptive qui faisait la grande situation d'évaluation pour à l'aboutissement de tout le cours. Et évidemment, comme je disais, le portfolio qui est inclus aussi, qui doit être évalué à travers le cours pour que l'étudiant ait une rétroaction pour pouvoir l'inclure dans son portfolio d'apprentissage pour le programme.
Donc, je comprends que le portfolio est longitudinal un peu à tout ce qui se fait dans le programme. Puis, le cours sert à créer des artefacts qui vont venir un peu étayer le développement de la compétence là, à évaluer, par exemple, dans leur portfolio final.
Exactement.
Et j'imagine que la situation d'évaluation par les pairs là, dont tu souhaites nous témoigner aujourd'hui, c'est la dernière situation dont tu parlais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus long?
Oui. Donc, c'est vraiment, comme je le disais, dans ce qu'on appelle le module 4 du cours, où les étudiants étaient amenés à concevoir une grille. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai intégré l'évaluation par les pairs à l'intérieur de ce travail-là. Dans un premier temps, les étudiants devaient choisir une situation d'évaluation dans une banque qui était proposé, ou pouvaient également prendre une situation d'évaluation qu'ils avaient déjà utilisée dans le cadre de leur pratique, mais qu'ils devaient quand même faire approuver. Donc, une fois qu'ils ont trouvé leur situation d'évaluation, ils devaient concevoir la grille. Donc, évidemment que ça s'appuyait sur des aspects plus théoriques. Donc, il y avait des lectures qui avaient été faites préalablement, et également une rencontre synchrone pendant la session où j'ai fait le modelage d'une conception d'une grille et également de son évaluation, donc quel aspect regarder pour pouvoir valider notre grille. Dans un deuxième temps, les étudiants devaient présenter leur grille dans une courte vidéo. Ensuite, la partie évaluation par les pairs commençait, c'est-à-dire que j'ai attribué à chacun des étudiants 2 évaluateurs. Je les ai jumelés, en fait, en fonction de leur discipline, puisque dans le programme, ils peuvent prendre de différentes disciplines en enseignement du secondaire. Ensuite, une fois qu'ils ont été attribués à quelqu'un, ils vont pouvoir faire l'évaluation de la grille qui a été présentée dans la vidéo. Donc, sous la forme d'un formulaire qui, en fait, reflétait les critères d'évaluation du travail sur la grille. Donc, chacune des questions ciblait un critère. Et à la fin, ils pouvaient également laisser un commentaire constructif de manière plus générale, comme rétroaction pour l'étudiant. Une fois que les évaluations par les pairs ont été faites, ensuite, ils prenaient connaissance de la rétroaction qu'ils avaient reçue des 2 personnes qui les avaient évaluées. Dans le travail final, les étudiants étaient amenés à, en fait, déposer d'abord la grille initiale, ensuite la grille améliorée, et une justification des changements qu'ils ont apportés à leur grille initiale ou, en fait, une justification des changements qu'ils n'ont pas apportés. Par exemple, s'ils ont rejeté une proposition d'un étudiant par rapport à la rétroaction qu'ils avaient reçue. Donc, ça, c'est le travail qui complétait et ensuite que moi, j'ai évalué selon les critères établis.
C'est une activité qui me semble très riche. En fait, la question qui me vient en tête présentement, c'est combien de temps durait là, tout ce continuum-là allant du début de la situation jusqu'à la remise finale de la grille révisée?
Environ 1 mois, je dirais. Donc, c'était le module le plus long. Si on commence du début du module où on a eu les apprentissages plus théoriques et les exercices pratiques qui nous ont amenés ensuite. La partie évaluation par les pairs concrètement, à partir du moment où ils ont déposé la première vidéo, devaient faire la rétroaction et ensuite prendre connaissance. Mais là, il y avait 3 semaines, là, dans le fond, pour pouvoir réaliser, avec un échéancier assez directif là, à ce moment-là.
Et dans une certaine mesure, là, on peut penser que c'est pas la démarche nécessairement d'évaluation par les pairs qui était évaluée certificativement. C'était vraiment un processus en soutien à l'apprentissage, puis ça menait à une production là, qui était évaluée certificativement par l'enseignant à la fin du cours.
C'est bien ça. Exactement. Dans le fond, l'objectif, c'était que les étudiants aient une rétroaction en cours de processus pour qu'on puisse améliorer et qu'à la fin, l'évaluation finale qui a été portée par l'enseignant, donc par moi, puisse se faire vraiment par rapport à eux, ils ont eu un cheminement et en fait, on a obtenu une rétroaction en cours de route. Là. Aussi, ce que je voulais, c'est que la situation se rapproche aussi le plus possible de la réalité, donc que la situation soit elle-même authentique. Donc, dans la conception d'une grille, normalement, dans les dernières étapes d'une conception d'une grille, il y a un moment où on doit réviser notre grille après l'avoir utilisée auprès de nos élèves. Donc, c'est sûr que dans la situation ici, on ne pouvait pas le faire. Mais l'évaluation ici par les pairs a permis justement un peu de cet aspect de « je peux réviser ma grille et pouvoir l'améliorer en cours de route ». Donc, c'est une chose aussi que je ciblais avec l'évaluation par les pairs.
Donc, effectivement, là, c'est une pratique authentique qui permet, en fait, un certain engagement, j'imagine, chez les étudiants aussi.
Oui, absolument. C'était aussi dans mon intention de favoriser l'engagement à travers tout le cours, étant donné que c'est un cours en mode asynchrone. Aussi, pour moi, l'évaluation par les pairs a permis une interdépendance qui a été positive entre les étudiants et a justement obligé cet engagement-là profond de la part des étudiants pour pouvoir réaliser la tâche et atteindre l'objectif.
Tout à fait. Maintenant, si on passe de l'intention pédagogique rapidement aux outils TIC mobilisés pour faire un peu le tour d'horizon de la situation, pour ensuite passer à la discussion sur les liens théorie-pratique. Donc, Marie-Josée, pourrais-tu nous parler un peu des outils TIC que tu as eu à utiliser, toi, en tant qu'enseignant, et que les étudiants, eux, de leur point de vue aussi, ont eu à manipuler pour mener à bien là, cette situation?
Donc, c'est sûr que l'Université de Sherbrooke utilisait Moodle. Donc, à la base, moi, j'ai cherché dans les fonctionnalités de Moodle qu'est-ce qui pouvait répondre à mon besoin de faire une évaluation par les pairs. C'est là que j'ai découvert la fonction atelier qui répondait vraiment à mes besoins. Donc, la fonction atelier vraiment peut permettre de faire un dépôt initial, offrir un formulaire, questionnaire. Ça peut être auto-évaluatif ou, dans ce cas-ci, co-évaluatif ou évaluation par les pairs directement. Et ensuite, d'offrir la rétroaction directement, automatiquement aux étudiants. Donc, c'est ce qui m'a permis, en fait, vraiment de pouvoir faire l'atelier. Donc, Moodle a été vraiment mon point de départ, autant pour moi que pour l'étudiant qui, lui aussi, devait suivre le cours entièrement sur Moodle. Donc, tout était dirigé vers la plateforme Moodle et était intégré directement à un endroit, ce qui évitait aussi d'avoir à utiliser différents outils à droite et à gauche. Donc, tout était centralisé.
Ce que je comprends, c'est que l'atelier te permettait de créer, toi, en tant qu'enseignant, la grille d'évaluation qui allait éventuellement être utilisée par les étudiants là, à même cette activité-là là, qui se déroulait sur Moodle.
Exactement. Dans le fond, les critères d'évaluation dans l'évaluation par les pairs étaient traduits par des questions dans un formulaire de style questionnaire. Donc, dans le fond, où la grille se reflète, où on peut, par exemple, donner le critère sous forme d'une question et avoir des choix de réponse qui démontrent la progression de la manifestation de ce critère-là. Donc, en étant, par exemple, si on veut aller du A vers le D. Donc, on pouvait aller faire cette gradation à travers les choix de réponse. Et chaque question reflétait un critère. Et comme aussi, à la fin, on pouvait faire une question plus ouverte où là, les étudiants pouvaient laisser des commentaires de manière générale ou ajouter ou préciser leurs pensées par rapport à un élément qu'ils avaient déterminé précédemment.
D'accord. Donc, on pourrait parler d'une grille d'évaluation à échelle descriptive informatisée, finalement, là.
Exactement, oui.
Ce sont quand même de très beaux outils de rétroaction, là, autant ce qui est scripté dans la grille que toute la dimension des commentaires qui te permettaient peut-être de faire des précisions peut-être plus personnalisées aussi là, suite aux observations qui sont faites par les pairs, entre autres, et par l'enseignant, bien sûr. Donc, merci beaucoup, Marie-Josée, pour ce témoignage, ce tour d'horizon. Là, on a la situation en tête. Donc, ce que je pourrais vous proposer maintenant, c'est d'embarquer tout de suite avec la discussion sur les liens théorie-pratique. En introduction, je vous dirais que Marcel Lebrun, en 2015, là, faisait état dans un article du Journal international de recherche en éducation et formation que les pratiques d'évaluation horizontale et centrées sur l'apprenant, comme l'évaluation par les pairs, font partie d'une intelligence collective à construire. Mais ça représente aussi, pour plusieurs, des changements paradigmatiques du rôle de la personne formatrice. Lançons la discussion sur les liens théorie-pratique. Quelle est la méthode employée pour recueillir ces traces, des témoignages, en fait, là, à partir desquels on a pu inférer que l'évaluation par les pairs, ça avait percolé puis ça avait vraiment ajouté une valeur à l'apprentissage?
Donc, au départ, en fait, avant et pendant l'activité, c'est surtout à travers les forums de discussion ou même la messagerie courriel que j'ai eu des interactions avec les étudiants, donc qui me posaient des questions et qui voulaient avoir des précisions par rapport à la tâche et à l'évaluation par les pairs. Après l'activité, c'est à travers le portfolio d'apprentissage que j'ai vraiment pu voir les retombées de mon activité d'apprentissage. Ici, ou pour voir à travers les réflexions des étudiants, j'ai pu voir que la rétroaction qu'ils avaient reçue avait vraiment amené l'activité plus loin et avait permis un apprentissage profond.
Oui, alors, Marie-Josée, j'aurais aimé te poser la question suivante. En parlant de ton intention pédagogique, tu disais que tu souhaitais que les enseignants expérimentent quelque chose qui pourrait revivre avec leurs propres élèves, notamment en ce qui concerne l'expérimentation de la grille. Alors, j'aurais bien aimé que tu nous justifies un petit peu ce choix pédagogique dans ton approche.
Bien, selon moi, dans un programme de formation en enseignement, il doit y avoir un alignement entre la pédagogie que ils vont expérimenter en tant qu'apprenants et celle qu'ils devraient mettre en application en tant que futurs enseignants. Évidemment, pour bien comprendre la pédagogie active ou l'évaluation au service de l'apprentissage, je pense qu'il n'y a rien de mieux que de le vivre pour pouvoir mesurer les bénéfices eux-mêmes et pouvoir reproduire ensuite l'expérience auprès de leurs propres élèves.
Bien, et suite à cette volonté de vouloir reproduire l'expérience vraiment qui est vécue, est-ce qu'on a pu être en mesure de diagnostiquer les besoins des étudiants en lien avec la conception d'une grille, par exemple, avant la planification ou pendant la conception?
C'est sûr que dans la planification initiale du cours, j'ai vraiment fait un alignement pédagogique à partir de la compétence et des objectifs spécifiques du cours qui sont en fait imposés par le programme, donc établis par le programme. Aussi, dans un cours asynchrone, c'est sûr qu'on a besoin que les étudiants brisent leur isolement pour pouvoir se motiver. Donc, c'est vraiment à travers cette réflexion-là que j'ai designé le travail.
Et justement, à propos de ce design, tu parlais du rôle de l'atelier dans Moodle, qui est très intéressant parce que je pense que tu l'as bien exploité, et du formulaire. Est-ce que tu as pensé à une alternative? Parce qu'en fait, ce que je comprends, c'est qu'on a vraiment une évaluation par les pairs, puisqu'il s'exprime dans le formulaire qui est compris par le récepteur, l'autre étudiant. Mais par contre, il n'y a pas vraiment d'interaction entre les pairs évaluateurs et l'étudiant qui reçoit l'évaluation. Alors, je me demandais si tu avais pensé à des alternatives à un formulaire écrit ou si c'était vraiment pleinement justifié par l'approche Moodle, si on veut.
Bien, en fait, je dirais que l'approche Moodle a répondu vraiment bien à mes besoins. C'est sûr qu'au départ, on aurait pu faire une co-évaluation enseignant et étudiant, c'est-à-dire qu'il aurait pu me donner une version préliminaire, moi, offrir une rétroaction et ensuite, évidemment, avoir une version améliorée, etc. C'est sûr qu'à ce moment-là, ça m'aurait demandé, moi, plus de travail. Je voyais aussi une plus-value dans l'évaluation par les pairs pour l'étudiant évaluateur. Ensuite de ça, c'est sûr qu'au niveau de la technologie, il y a d'autres outils que Moodle que j'aurais pu utiliser qui auraient fait des variantes qui auraient pu fonctionner. Entre autres, dans la suite Google, où on pourrait utiliser d'autres outils, par exemple, un formulaire avec une extension qu'on appelle Doc Appender, qui peut lier un formulaire à un Google document. Et dans un Google document collaboratif, on aurait pu, par exemple, avoir plus d'interactions entre l'évalué et l'évaluateur. Donc, effectivement, ça aurait pu être une option, mais que j'ai pas, comme je voulais que tout se passe sur Moodle pour un peu aussi restreindre la complexité technologique. Donc, j'ai vraiment misé tout sur Moodle à ce moment-là.
Question là-dessus, en fait, est-ce qu'on a envisagé éventuellement de les mettre en contact en mode synchrone ou c'était parce que le contexte du cours ne le permettait pas? On était dans un contexte asynchrone 100%. Par contre, là, tu nous as parlé tout à l'heure d'une petite séance de modélisation. J'imagine que celle-là était peut-être pas prévue puis que le contexte était quand même à la base en asynchrone. Mais est-ce que tu penses que ça aurait pu être pertinent de les amener à se présenter leur rétroaction de vive voix, peut-être, éventuellement, ou l'écrit était suffisant pour atteindre l'objectif qu'on voulait atteindre?
Je pense qu'il y avait une limite par rapport à la coordination dans l'atelier Moodle ou, dans le fond, dans l'attribution des co-évaluations. Donc, ça devait se faire assez rapidement. Donc, il fallait attendre que tout le monde ait remis son travail initial pour pouvoir attribuer les co-évaluateurs. Donc, le contact à ce moment-là, et moi, j'avais choisi, on aurait pu le faire aléatoirement, cette attribution-là ou ce jumelage-là. Par contre, moi, j'avais choisi de jumeler les personnes d'une même matière. Donc, ça m'a demandé quand même de mon côté à aller analyser qui était dans les mêmes disciplines d'enseignement, donc pouvoir faire ce jumelage-là. On aurait pu, par exemple, peut-être utiliser le forum de discussion pour pouvoir aller ouvrir un forum où là, il y aurait pu avoir des échanges moins formels, où on aurait pu, les étudiants auraient pu être en contact entre eux. C'est sûr que le respect de l'échéancier aussi dans la tâche on aurait eu besoin de plus de temps pour pouvoir laisser cet espace d'échange-là qui a été un petit peu moins possible dans mon cas.
Changement de propos. En fait, on parlait des traces recueillies tout à l'heure là, pour permettre d'inférer la valeur ajoutée de la coévaluation ou bref de l'évaluation par les pairs sur l'apprentissage. Les traces, là, bon, on parlait des interactions qui ont eu lieu avec les personnes étudiantes via courriel, entre autres. On a vu les retombées par les réflexions dans le portfolio aussi. Est-ce qu'il y a d'autres traces que tu as recueillies qui nous ont permis d'inférer là, vraiment la valeur ajoutée de cette démarche à l'apprentissage?
C'est sûr qu'au départ, je n'avais pas vraiment une intention de cueillir de données formelles. Donc, pour moi, ça a vraiment émergé à travers le portfolio de réflexion à la fin de la session ou dans leur réflexion sur le retour sur leurs apprentissages. Les étudiants m'ont nommé des éléments qui étaient les bénéfices de l'évaluation par les pairs qui étaient vraiment bien traduits dans leurs mots, où on voyait vraiment qu'ils me disaient que grâce aux commentaires qu'ils avaient reçus, ils avaient été capables d'ajuster leur production et qu'ils avaient aimé le processus là, où ils avaient pu avoir la chance d'avoir de la rétroaction avant d'avoir une évaluation formelle là, par l'enseignant. Donc ça avait vraiment été plus lu en fait à travers les réflexions du portfolio. Mais je n'avais pas l'intention au départ de vraiment mesurer l'impact de ma pratique là, au départ.
D'accord. Alors, en t'écoutant, Marie-Josée, je me demandais comment tu avais fait pour créer avec tes étudiants un référent commun, puisque d'une certaine manière, tu as délégué ton pouvoir évaluatif sur les étudiants, sur les pairs. Comment est-ce que tu t'es assurée d'une compréhension commune de ces référents?
Donc, c'est certain qu'au départ, pour le cadre théorique, si on veut, on s'appuyait sur notre livre obligatoire là, du cours dans lequel, en fond, on avait la démarche expliquée sur la conception d'une grille. Donc, la tâche à réaliser était quand même bien expliquée au niveau théorique. Ensuite, c'est sûr qu'un des objectifs du cours aussi, c'est de s'approprier les cadres d'évaluation ministérielle. Donc, c'est évidemment un document de référence qui est très important. Donc, à travers la session, on avait utilisé à plusieurs reprises les cadres d'évaluation. Et à travers des exercices pratiques, ils avaient été travailler la conception d'un descripteur, énoncer un critère, traduire une composante d'une compétence en critère. Donc, ça avait déjà été travaillé. Maintenant, la tâche en tant que telle de grille descriptive, effectivement, c'est vraiment les lectures. Mais j'ai voulu faire une séance synchrone pour pouvoir faire vraiment un modelage pour pouvoir leur montrer un peu la démarche là, en action. C'est ça qui a été très formateur et apprécié. C'est sûr que même si c'était en mode synchrone, la séance avait été enregistrée, donc l'étudiant qui ne pouvait pas se présenter pouvait évidemment regarder la vidéo à leur guise aussi. J'ai également mis des grilles modèles disponibles pour que l'étudiant puisse avoir une référence. Puis aussi, quand j'avais la modélisation, j'ai aussi expliqué qu'est-ce qui pourrait justement ne pas être un modèle, donc un contre-exemple, si on veut, d'une grille là, qui serait efficace. Donc, ces aspects-là avaient été déjà bâtis à travers la session, puis aussi dans le dernier module là, en tant que tel.
Et donc, tu en déduis que la coévaluation est formatrice pour les étudiants?
Oui, pour moi, dans l'évaluation par les pairs, il y a deux rôles qui est formateur, en fait, pour les étudiants. Le premier, c'est vraiment l'étudiant qui va être évalué. Donc, il va pouvoir accéder à des points de vue différents, à avoir de la rétroaction, à réévaluer ses objectifs en fonction de la tâche avec les rétroactions qu'on va avoir reçues. Donc, vraiment, l'apprenant. Il y a également le rôle de l'étudiant évaluateur qui, lui, développe à travers l'évaluation qu'il doit porter sur l'autre étudiant, va s'approprier les critères d'évaluation de la tâche et puis aussi va également réguler sa propre production en comparant un peu avec ce qu'il va voir, va peut-être mieux comprendre, va réajuster. Donc, je pense que c'est formateur dans ce sens-là. Donc, les deux rôles permettent vraiment d'avoir un regard plus complet sur la tâche.
D'accord. Et tu parlais aussi d'interdépendance entre tes étudiants. Je suppose que tu parlais alors de la personne qui évalue et de la personne qui reçoit l'évaluation, parce qu'il n'y a pas eu vraiment d'interdépendance entre les deux les deux co-évaluateurs de la grille, j'imagine. Et tu disais aussi que cette interdépendance alors devenait un facteur d'engagement profond. Pourquoi?
Oui, ben en fait, je compare un peu par rapport aux travaux d'équipe traditionnels où on peut vraiment éviter la réelle coopération ou la collaboration entre les étudiants dans la mesure où ils peuvent travailler de manière parallèle sur un travail de manière fait individuellement qui va sûrement être mis en commun. Où là, je ne vois pas d'interdépendance entre les étudiants. On ne peut pas vraiment voir non plus l'apport de chacun ou l'engagement de chacun dans la tâche. Dans ce cas-ci, c'était plutôt visible que l'interdépendance entre l'évaluateur et l'évalué était positive dans le sens où on attend après l'évaluation qu'on reçoit pour pouvoir améliorer ensuite notre production. Donc, il y a une interdépendance à ce moment-là qui s'est créée et aussi l'engagement est favorisé dans le sens où on doit s'impliquer effectivement pour pouvoir atteindre l'objectif final. Et en fait, dans la mesure où tout le monde avait le même objectif de réussite, évidemment, dans le travail. Tout le monde s'est appliqué à donner des commentaires assez pertinents et en fait à vouloir créer une rétroaction efficace pour la personne. Parce que lui-même aussi, ça va savoir qu'elle en avoir une autre de la part de quelqu'un d'autre. Donc, je pense que c'est là que l'interdépendance s'est créée.
Donc, ce que je peux en déduire, c'est que chaque personne, finalement, a vraiment eu deux rétroactions. Il n'y a personne, finalement, qui s'est ramassé avec seulement qu'un évaluateur ou un évaluateur qui était plus ou moins participatif, là. Tout le monde a vraiment eu, là, les rétroactions qui étaient attendues.
J'ai eu un cas particulier avec un étudiant, mais ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que moi, j'ai agi en tant qu'évaluatrice, là, pour pouvoir compléter, pour qu'il y ait deux rétroactions à ce moment-là. Donc, c'est vraiment plus un cas particulier qui relève plus de la gestion de la classe, là, mais sinon, ça s'est très bien déroulé, oui.
Est-ce que cette pratique pourrait être mise à l'échelle dans un groupe un petit peu plus grand? Je sais que tu nous en as parlé tout à l'heure, mais il y avait combien d'étudiants dans ton groupe concrètement?
J'en avais 28 dans le groupe. En fait, j'ai fait à la première session avec 28 et je l'ai fait à la deuxième session avec un groupe un peu plus réduit de 22 étudiants. Mais je le vois à échelle plus grande où la seule chose qui va être un peu plus complexe, c'est peut-être l'attribution des évaluateurs qui moi, j'ai fait manuellement. Si on voulait alléger la tâche, on pourrait dire, je lui fais l'attribution aléatoirement et ça se fait automatiquement à ce moment-là dans l'atelier Moodle, par exemple. Et là, bon, ça l'allège vraiment beaucoup, le processus. Puis ça peut amener un regard plutôt interdisciplinaire aussi dans la tâche, là, qui pourrait être intéressant également.
Je vais poursuivre quant à moi avec la question des critères. Donc, je comprends que tu as fourni les critères aux étudiants et que ceux-ci provenaient aussi d'un ouvrage théorique qu'ils s'étaient tous appropriés. Dans les derniers développements des recherches en évaluation, on se rend compte qu'en fait, le fait de concevoir les critères d'évaluation, alors des grilles et pas dans les grilles, hein. Ici, on parle bien à un niveau un peu plus méta. Le fait de les construire avec les étudiants pourrait améliorer l'apprentissage ou le rendre plus durable. Je voulais savoir ce que tu en pensais de cette perspective-là et si peut-être dans ton expérimentation, tu as quand même eu ce travail de compréhension collective des critères dans le travail d'évaluation que les étudiants ont fait.
Oui, c'est une bonne question parce qu'effectivement, ça aurait été dans un monde idéal, là, la situation où on aurait pu concevoir les critères. J'avais quand même une contrainte par rapport à ma production moi-même du plan de cours que je devais faire en début de session. Donc, dans le plan de cours, je devais déjà annoncer les critères d'évaluation qui allaient se rattacher à ce travail-là, qui allaient être évalués. Donc, c'est sûr que j'avais une contrainte de ce côté. Donc, il fallait que j'impose les critères préalablement. Ensuite de ça, bien, un peu pour contrebalancer cet effet-là, c'est dans la rencontre synchrone que j'ai faite avec les étudiants où là, on a pu plus échanger. J'ai présenté, moi, la grille, en fait, des critères et permettre de poser moi des questions. Est-ce que vous comprenez bien ce que ça veut dire? Voici un exemple d'application. Donc, il y a eu un échange à ce moment-là avec les étudiants pour m'assurer qu'ils maîtrisaient bien la compréhension de ces critères. Mais effectivement, dans un monde idéal, on aurait pu construire ou on aurait pu utiliser, par exemple, le forum de discussion où on aurait pu faire émerger les critères d'évaluation à travers, après avoir fait des premières lectures, selon vous, qu'est-ce qui représente une bonne grille, etc. Donc, pour aller valider. Donc, ça aurait pu être effectivement très intéressant. Il y a toujours aussi la contrainte de temps, dans le sens où cet échange-là, on aurait eu besoin d'avoir plusieurs jours pour pouvoir permettre ça. Donc, c'était peut-être un peu moins possible dans ce cas-ci.
C'est ça, mais donc tu t'es quand même assuré de la compréhension univoque des critères par les étudiants évaluateurs. Mais je me demandais si tu avais observé un écart important entre ta propre évaluation des grilles et celle qui avait été faite par les pairs étudiants.
Oui, ben en fait, c'était variable. Je dirais qu'en général, les points qui étaient soulevés étaient très pertinents. Et même, je les confirmais là, dans le travail, dans ma correction, quand je ferai ma rétroaction, effectivement, c'était un commentaire intéressant. Aussi, dans la production finale, comme étudiants, devaient justifier les choix qu'ils avaient faits par rapport aux modifications apportées ou en fait rejetées. S'ils rejetaient une proposition d'un étudiant que moi, je jugeais pertinente, ben là, je pouvais élaborer là-dessus également. Ben en fait, je pourrais dire, je crois que tu aurais dû retenir cette suggestion de l'étudiant et à ce moment-là justifier de mon côté pour quelles raisons il aurait dû le faire. Au contraire, la justification de l'étudiant elle pouvait être très, très pertinente et bien argumentée, puis dire, OK, tu as le droit de refuser cette suggestion pour telle raison. Donc, je dirais que de manière générale, ils étaient assez près des critères. On avait quand même une bonne compréhension commune des critères. Par contre, des fois, dans le formulaire, dans le fond, dans lequel ils remplissaient, des fois, ça se pouvait qu'ils ne situent pas nécessairement l'élément qui ciblait au bon endroit, dans le bon critère, mais on le voyait ensuite dans le commentaire général que c'est l'intention qu'on la retrouvait. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si l'étudiant voulait commenter sur la clarté là, des descripteurs, bien, il l'avait mal situé par rapport à autre chose, donc par exemple à la pertinence des échelons. Bon, ben à ce moment-là, dans les commentaires, c'était cet élément-là qu'on pouvait clarifier puis aller comprendre que bon, il l'a pas mis au bon endroit dans sa grille quand il a évalué l'autre personne, mais on obtient quand même une rétroaction qui peut être efficace là, puis qui va être utile pour la production améliorée quand même.
Merci beaucoup pour cette animation, Isabelle, et pour ce témoignage, Marie-Josée, de ce segment du balado qui portait sur la discussion entre les liens théorie-pratique. Je vous proposerai tout de suite d'enchaîner avec la discussion sur la valeur ajoutée du numérique à la situation. Donc, dans cette deuxième partie du balado-là, on va vraiment plus se concentrer sur la thématique de l'intégration du numérique à la pratique d'évaluation, et on va se baser pour ça sur les assises du modèle du professeur Ruben Puente-Duras, qui a réussi vraiment à définir à l'aide de son modèle SAMR un langage qui va être accessible pour concevoir des situations d'apprentissage qui vont intégrer le numérique de façon signifiante pour les personnes apprenantes et dans lesquelles on va vraiment pouvoir percevoir cette plus-value. Donc, nous allons relancer la discussion tout de suite avec une première question, une question ouverte. À votre avis, comment Marie-Josée a utilisé la technologie en soutien à l'apprentissage dans le cadre de cette situation d'évaluation par les pairs-là proposée dans le PED 898?
Bien, je peux répondre pour moi-même. En fait, ma réflexion initiale, la technologie est vraiment au départ venue remplacer en fait quelque chose qui aurait pu se faire en mode en présentiel, en format papier, par exemple. Donc, c'est sûr qu'il y a un moment de substitution qui a été créé avec la technologie. Mais c'est sûr, au fur et à mesure que j'ai développé l'activité, je voyais vraiment que la richesse, en fait, de l'interaction qui s'était créée, puis en fait, l'activité rapide de la rétroaction avait vraiment rendu l'évaluation par les pairs très efficace.
À ce moment-là, de ce que je comprends, c'est qu'on a apporté un certain nombre d'améliorations fonctionnelles pour toi, pour permettre de faire le pairage, pour faire l'organisation un peu là, en tant que formateur de toute cette situation-là. Et sur le plan de la modification qui s'est un peu opérée dans cette situation-là, eh bien, ça a permis une plus grande efficacité au niveau des rétroactions, au niveau du temps peut-être aussi de rétroaction, j'imagine, l'efficacité, mais l'immédiateté aussi, dans une certaine mesure.
Exactement. Dans le fond, c'est vraiment rendre le processus vraiment efficace, organisationnel. C'est ça qui a été vraiment le plus-value par rapport à l'utilisation de la technologie, de l'atelier Moodle.
Tout à fait. Parce que, comme tu le soulignais, Marc-José, effectivement, en présentiel, on aurait pu faire imprimer les grilles sur des feuilles de papier, puis pairer les gens en petits îlots. Tu sais. Donc, on n'est pas en train de redéfinir une nouvelle situation. On est vraiment plus au niveau de l'amélioration fonctionnelle et de la modification de certains aspects de la tâche qui vont peut-être être plus efficients à ce moment-là.
Exactement, oui.
Et as-tu remarqué une autonomie particulière des étudiants qui mobilisaient les outils numériques? Trouvais-tu qu'ils étaient autonomes dans leur démarche? Avais-tu beaucoup à les guider dans l'utilisation des outils?
Bien, je dirais que comme le programme est déjà en mode asynchrone, sur Moodle, ils étaient vraiment déjà à l'aise avec tout le procédé ou la façon de faire là, dans le cours. C'est sûr que chaque enseignant va monter son cours sur Moodle de manière un peu différente. Donc, dans un cours comme celui-là, c'est sûr que l'autonomie est assez essentielle pour pouvoir réaliser le cours. Et la technologie s'impose de par elle-même à ce moment-là. Donc, oui, ils étaient autonomes. Il y avait des questions techniques parfois, mais très peu quand même. Là. Sinon, c'était via courriel, mais en général, je dirais qu'ils étaient assez à l'aise. Là.
Autant sur le plan de l'utilisation de l'outil que sur le plan de ce qu'ils avaient à faire finalement avec l'outil, soit de faire les rétroactions. Donc, les consignes, le cadre était très bien défini, d'où l'idée de l'organisation qui était claire là, dès le départ. Est-ce que tu sentais que, dans le fond, l'usage des technologies a vraiment permis de centrer les apprentissages sur les besoins des étudiants?
Bien, je dirais, en fait, si on revient à l'objectif de vouloir construire une grille d'évaluation, un outil d'évaluation ici, la fonction atelier a vraiment pu permettre une rétroaction individuelle de la part de deux points de vue différents. Donc, c'est certain que ça répondait aux besoins individuels de l'étudiant et de cibler ses forces et ses faiblesses. Donc, à ce moment-là, c'est évident que c'était vraiment centré sur les besoins individuels de l'étudiant et c'est ce que ça l'a permis avec l'atelier.
De centrer sur les besoins individuels, certes, et on était en mesure de sentir qu'ils étaient en contrôle de ce qu'ils avaient à faire.
Absolument. En fait, l'étudiant se laissait complètement aller dans le processus. C'est moi, de mon côté, qui devais gérer l'attribution des évaluateurs, mais de leur côté, c'était tout automatisé. Donc, il n'y avait pas vraiment de choses à faire concrètement, à part le dépôt, les tâches précises, là, les consignes à respecter directement, mais sinon, ça se faisait de manière fluide.
À la lumière de tout ça, là, on en a discuté un petit peu tout à l'heure, mais pour le formateur, là, quel a été vraiment l'apport pour toi de la technologie dans cette situation-là?
Pour moi, ça a vraiment été la coordination des différentes étapes, des phases de l'évaluation par les pairs. Donc, la première phase, c'était la remise en format vidéo. Ensuite, le jumelage que j'ai pu faire. Donc, comme je le disais, j'aurais pu choisir l'option aléatoire, mais je l'ai fait manuellement dans ce cas-ci. Donc, cette portion-là se faisait très bien. Ensuite de ça, la remise de la rétroaction s'est faite vraiment automatiquement. Donc, ça, c'était la partie, en fait, qui était optimale par rapport à l'atelier. Évidemment, le dépôt du travail final, là, tout simplement, sur Moodle. Le seul obstacle que je dirais que j'ai rencontré par rapport à tout le processus, c'est vraiment, en fait, que le retard d'un étudiant par rapport à la remise avait un impact majeur sur le procédé, puisque il fallait vraiment avoir toutes les productions initiales avant de pouvoir faire l'attribution par les pairs. Ça a été un enjeu lors d'une session où j'avais deux étudiants qui étaient en retard. Puis on attendait après eux, puis on attendait. Puis là, ça mettait une pression ou un stress sur les autres qui voulaient commencer à faire l'évaluation par les pairs et voulaient pouvoir respecter l'échéancier. Donc, ça a mis une pression supplémentaire. Donc, évidemment, pour pouvoir accommoder tout le monde, j'ai donné une extension ensuite. Là, j'ai comme tout décalé l'échéancier. Mais c'est sûr que cet élément-là, pour moi, a été une portion de stress là, par rapport au moment où on coordonne directement l'attribution. Donc, puis qu'il y a un impact sur tout le groupe. Là. À la session suivante, j'ai vraiment insisté sur le respect de l'échéancier, le retard, expliqué aussi l'effet de l'impact possible d'un retard, puisque je l'avais vécu. Là. Donc, j'avais anticipé un peu tout ça. Ça s'est mieux déroulé la deuxième fois que je l'ai fait. Hein.
Puis là, j'entends quelque chose en lien avec, entre autres, là, la première phase qui était d'enregistrer là, la présentation de sa grille en format vidéo. Alors, pourrais-tu nous parler un peu des outils que les étudiants se sont appropriés pour être en mesure de te livrer cette présentation-là et de la livrer aussi à leurs co-évaluateurs?
En fait, moi, j'avais sous-estimé un peu la difficulté pour les étudiants d'utiliser la remise vidéo. Pour moi, c'était assez instinctif. En fait, c'était assez commun. Il y en a pour qui c'était la première fois qu'ils devaient faire une remise vidéo. C'est sûr que dans le cours ou dans tout le programme, ils doivent développer la compétence à mobiliser le numérique. Donc, c'est quand même quelque chose qu'ils doivent développer. Alors, je l'ai quand même laissé explorer, leur suggérer différentes façons, donc différents outils technologiques qui pouvaient faire le montage vidéo simple, de manière très simple, de l'enregistrement d'un PowerPoint à un montage un peu plus complexe. Mais j'ai donné des consignes plutôt larges par rapport à l'air. On ne demandait pas un niveau de qualité de production. Là, c'était un enregistrement audio sur une image où on voyait la grille, dans le fond, qu'on voulait voir. Parce qu'en fait, ce que je voulais, c'est qu'ils puissent étudier et expliquer un peu le contexte de sa situation d'évaluation, qui est un peu sa grille là, avec les choix qu'il avait faits. Donc, mais oui, j'avais un peu sous-estimé cette difficulté-là au départ.
En quoi l'usage des technologies a aidé à rendre la situation plus authentique?
Bien, en fait, ce qui a rendu l'apprentissage authentique, c'était vraiment par rapport, comme je l'ai dit un peu plus tôt, dans le fond, la démarche dans laquelle, normalement, lorsqu'on crée une grille en milieu de travail, donc on se met dans une situation, je suis enseignante dans une école secondaire, j'ai des collègues avec moi dans une équipe de travail, donc je suis rarement seule là, sur mon niveau, en fait, ça dépend de la grosseur de l'école. Donc, je vais voir concevoir une grille d'évaluation pour un travail, une situation d'évaluation, je vais la concevoir. Donc, je vois souvent un enseignant dont on va discuter, échanger, on va d'abord établir les critères ensemble, mais il y a souvent une part individuelle où la personne va se lancer, une des personnes va se lancer dans la conception de la grille et ensuite va l'envoyer à son collègue et là, l'autre va amener des commentaires, il va avoir cet échange-là. Donc, en ce sens-là, je dirais que l'évaluation par les pairs avec l'atelier a reproduit de manière assez authentique cet aspect-là. La portion échange verbal, peut-être pas, mais en fait, le côté, je regarde le travail fait, je donne mes commentaires, voici ce que tu devrais améliorer. Je pense quand même que ça se colle assez bien à la réalité.
C'est tout à fait juste. Et d'autre part, cette démarche-là de réalisation d'une grille via des outils asynchrones, bien, c'est quelque chose qu'on peut très bien transposer dans un milieu de travail. Quand on n'a pas le temps de se rencontrer en équipe, on a déjà cette méthodologie-là, puis on peut tout simplement la mettre en œuvre là, dans notre école, si on veut.
Absolument. C'est sûr que, par contre, ce que je voulais aussi faire vivre aux étudiants, c'était l'évaluation par les pairs elles-mêmes. Donc, comment eux, ayant vécu l'évaluation par les pairs, comment ils pourraient, eux, la transférer dans leur pratique. C'est sûr qu'au niveau secondaire, en enseignement secondaire, Moodle est très peu utilisé. Donc, c'est sûr qu'eux ont vécu l'atelier. Est-ce qu'ils vont vraiment pouvoir faire un atelier avec leurs étudiants? Peut-être pas. C'est pour ça que, l'utilisation des outils Google aurait peut-être été plus accessible ou en fait plus pertinent pour qu'ils puissent voir comment eux auraient pu transférer l'expérience vécue dans leur pratique. Donc, ça, c'est une chose du possible. C'est sûr que aussi de l'avoir vécu en tant qu'apprenant, ils pourraient, par exemple, ajouter des ressources au niveau des conseils technopédagogiques, puis dire, bien, j'ai vécu ça, j'aimerais ça reproduire quelque chose de semblable. Donc, c'est sûr qu'il y a une démarche aussi à faire. Ça donne quand même une bonne piste.
Tout à fait. Merci beaucoup, Marie-Josée, pour ce témoignage éclairant sur la valeur ajoutée du numérique à la situation d'évaluation par les pairs dont tu nous as fait le témoignage précédemment. Donc, on serait rendu un peu à nuancer le propos, c'est-à-dire à l'inverse, de voir si la technologie a pu occasionner certains freins à l'apprentissage. Donc, d'emblée, est-ce que tu crois, Marie-Josée, que l'usage des technologies a vraiment ajouté un niveau de complexité à cette situation-là qui n'aurait pas dû y avoir finalement?
Je ne crois pas, honnêtement, je ne vois pas vraiment le frein à l'apprentissage. Au contraire, je pense qu'il y a eu des personnes qui ont eu des défis plus importants par rapport à l'utilisation technologique que par rapport à la vidéo. Donc, pour eux, la marche était un peu plus grande dans l'aspect technique. Mais sinon, dans l'apprentissage, en fait, si on revient à l'apprentissage et à la conception d'une grille, pour moi, ça répondait vraiment à mes attentes.
Et en fait, là, on en a parlé, ça a permis de rendre la situation d'autant plus authentique. Et tu en as glissé un peu un mot tout à l'heure, mais je pense que ça vaudrait peut-être la peine qu'on y revienne. Est-ce que le fait d'utiliser une plateforme qu'ils ne peuvent pas utiliser sur le marché du travail, dans le fond, a créé un frein un peu à cette authenticité-là de la situation?
Ben, en fait, par rapport à l'authenticité de la conception d'une grille, non, mais pour le transfert, j'espère, en fait, qu'il y a un lien qui va être fait par rapport à avoir vécu la co-évaluation. C'est sûr aussi que côté en mode en enseignement secondaire, bon, cette année, on a eu une année particulière où là, il y avait eu l'enseignement à distance, mais sinon, ça se fait plutôt en présentiel. Donc, l'aspect évaluation par les pairs, en ayant une rétroaction avant une production finale, tout cet aspect-là, je pense qu'on peut facilement transposer ce qu'ils ont vécu avec ce qu'ils pourraient faire vivre à leurs élèves en classe quand même. Donc, oui, oui et non, je dirais, pour cette question-là. Donc, oui, ça aurait été bien de pouvoir utiliser des outils qu'ils pourraient réutiliser, mais je pense qu'ils peuvent quand même très bien transposer en classe au niveau secondaire. Normalement.
C'est quand même très encourageant de t'entendre parce que, tu sais, souvent, on a un peu ce biais-là, nous, à l'université, de ne pas avoir les mêmes outils qu'ils ont dans les écoles. Puis ça, ben peut-être que ce serait éventuellement quelque chose à repenser pour pouvoir s'arrimer vraiment sur ce qu'ils ont concrètement là, et leur montrer à utiliser les outils qu'ils vont avoir à utiliser vraiment dans leur pratique. Là.
Oui, dans la conception de la vidéo aussi, c'est pour ça que je n'ai pas imposé non plus n'importe quel outil. En fait, utilisez ce que vous allez pouvoir utiliser, vous allez pouvoir trouver efficace pour vous dans votre travail là, pour la suite des choses.
Donc, j'imagine qu'il y en a qui ont procédé par capture d'écran vidéo, d'autres qui se sont simplement filmés avec leur appareil cellulaire ou d'autres. J'imagine qu'il y a eu un bon éventail de méthodes qui ont été utilisées à ce moment-là pour
oui, l'enregistrement. Il y a eu beaucoup de PowerPoint enregistré. Il y a eu beaucoup de bon Screencastify ou Screencast, là, dans le fond, où on a enregistrement d'écran avec une voix selon les différentes plateformes. Là, s'il y en a qui étaient plus Mac, il y en a qui ont utilisé du iMovie. Donc, c'était assez large, là.
À ton avis, Marie-Josée, question à 100 $, est-ce que la situation d'évaluation par les pairs aurait pu se vivre sans la technologie avec autant de richesses sur le plan de l'apprentissage?
Bien, c'est sûr, en mode asynchrone, ça aurait été impossible de le faire sans les technologies. Donc, je le vois pas du tout. Là, on aurait été vraiment dans un format remise, moi qui fais une correction, une qui offre de la rétroaction, qui remet à nouveau, qui remet, on fait un échange là, assez statique, là, si on veut. Donc, je le vois pas du tout à ce moment-là. Si on avait été en mode présentiel, oui, on aurait pu vivre sans la technologie pour pouvoir le réaliser. Par contre, j'ai quand même remarqué que la technologie aussi avait permis un des aspects de l'évaluation par les pairs qu'on retrouve souvent, qui est la surestimation. J'ai l'impression que le fait que les étudiants étaient derrière un écran, quand ils évaluaient leurs pairs, ils étaient un peu plus francs ou en fait plus juste sur leur évaluation. Ils avaient moins peur de blesser l'autre dans leurs commentaires. Ils donnaient des commentaires qui étaient constructifs. Donc, tout le monde était dans le respect, évidemment. Ce qui fait qu'en personne, c'est une gêne qu'on se garde. Je pense qu'on est en évasion par les pairs. Si on était autour d'une même table puis je devais commenter, on aurait vraiment marché sur des os, on n'aurait pas voulu froisser l'autre. Je pense que la technologie a amené ça, a contrebalancé cet effet-là de l'évasion par les pairs qu'on a souvent soulevé, là, que les étudiants, soit sous-évalués ou surévalués, mais surtout surévalués parce que par gêne ou par manque de pas vouloir blesser l'autre, là, surtout.
Tout à fait. C'est très intéressant ce que tu amènes, Marie-Josée, parce que l'asynchroniste nous amène vraiment à avoir plus de temps pour s'arrêter, comprendre la production, puis se poser les bonnes questions pour être en mesure peut-être justement d'être plus lucide ou plus du moins juste ou plus franc dans les commentaires, les rétroactions qu'on va donner à ce propos.
Toi, Isabelle, par rapport à ça, cet aspect-là de l'évaluation par les pairs,
ben moi je trouve ça c'est très intéressant parce qu'en fait on sait en recherche, c'est plus mon expertise en recherche collaborative, mais quand tu places des personnes ensemble sur le sujet de l'évaluation, c'est un sujet brûlant et qui crée beaucoup d'inhibition et beaucoup de peur du jugement. Et donc c'est vraiment un obstacle dans les recherches collaboratives en évaluation que les gens osent se parler les uns les autres de ce qu'ils font en évaluation. Donc ça corrobore tout à fait à une plus petite échelle de deux ou trois étudiants, mais c'est vraiment une zone très intime, en fait. C'est parce qu'on est dans le jugement, et là, en plus, c'est un travail, donc ils veulent performer, donc tu as toute cette dimension là aussi du jugement sur la performance d'autrui ou de faire juger ma performance alors que je suis encore en apprentissage, ce qui demande une certaine humilité. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, je ne veux pas insister, mais c'est que, en fait, souvent, il y a une posture haute et une posture basse quand on est en hétéro-évaluation. Et là, ça réduit aussi cette espèce de posture haute. Et donc, ça crée, moi, j'aurais envie de dire, un espace sécurisé où les personnes peuvent recevoir et donner ce genre de rétroaction-là. Et à mon avis, c'est un des enjeux essentiels quand on forme à l'évaluation. Ta réflexion est vraiment passionnante à ce niveau-là.
Oui, puis en fait, c'est ça aussi, j'ai l'impression que le climat aussi du cours en général, où là, on était vraiment, via les forums de discussion, on était beaucoup dans, on veut pas se juger, on veut partager, on veut avoir les différents points de vue. Je pense que ça, c'est quelque chose que j'avais quand même réussi à établir dans le cours. Donc, ça l'a amené à la fin de la session à être en confiance dans les rétroactions qu'on allait donner à l'autre aussi. C'est pour ça aussi qu'on le fait pas en début de session, où là, on se garderait peut-être une gêne. Je pense que aussi la chronologie fait en sorte que ça l'a aidé d'arriver à la fin de la session pour qu'on voit qu'au début, dans les premiers forums, on a plus une grande retenue dans notre jugement ou dans les commentaires, puis on est beaucoup dans le Ah, tu as raison, ou tu sais, des choses. Mais après ça, à un moment donné, on relance un peu plus. Puis là, c'est moi qui intervenais, puis qui disais, OK, oui, mais on peut pousser plus loin, pourquoi? Puis ces choses-là, je pense que le climat du cours en tant que tel a permis d'amener à cette étape-là ultime, là, où on a pu s'évaluer entre nous, là, finalement.
C'est très intéressant de vous Super. Entendre. Puisque là, on peut parler en fait de reliance sociale entre les membres d'une communauté d'apprentissage à distance puis de l'usage des technologies pour favoriser cette reliance sociale-là.
Bien, si je reviens à l'objectif au début que j'avais, c'était de briser l'isolement. Je pense que là, ça a été atteint parce qu'on n'était pas en train de faire un travail chacun de notre côté, pas trop savoir si on était dans la bonne voie. Donc, même si c'était en fait une évaluation via un formulaire où il n'y a pas eu vraiment d'échange là, dynamique, mais quand même, on a pu avoir un contact avec un autre. Puis, à la limite, l'étudiant aurait pu entrer en contact avec son évaluateur et lui dire, est-ce que tu peux m'aider à préciser, est-ce que tu peux, etc. On aurait pu, ils étaient libres, ils voyaient le nom de l'évaluateur, là, donc c'était pas anonyme. Donc, ils auraient pu entrer en contact, demander un peu plus de précision, par exemple. Donc, ça, je pense que ça avait vraiment répondu à ce besoin-là, certainement.
Et moi, ce que ça m'inspire, c'est l'idée de mutualité aussi, justement. Pour briser un peu ce rôle d'évaluateur qui pose un jugement, qui reconnaît ou qui condamne. Les étudiants n'ont pas du tout envie d'être là-dedans, donc ils veulent vraiment être dans une perspective de bienveillance, mais aussi pas une bienveillance qui est une complaisance. Donc, tu l'as bien dit, c'est d'oser dire ce qu'on doit dire à l'autre pour que la rétroaction soit vraiment constructive et permette un développement professionnel. Et ça, c'est quand même très intéressant parce que c'est aussi dans le métier, à mon avis, une zone très fragile. C'est que les enseignants n'ont pas encore suffisamment l'habitude de considérer qu'ils peuvent s'aider mutuellement dans un développement professionnel en prenant des risques, en faisant des erreurs et en se donnant un avis mutuel, un avis professionnel. Alors, je trouve que ton activité permet vraiment de développer ça aussi. C'est pour ça que je trouvais que l'espèce de transfert qu'on pouvait faire de l'enseignant vis-à-vis de ses élèves, c'est un enjeu, mais il y a aussi le transfert de ce que les enseignants peuvent faire entre eux, puisque ce sont des enseignants en exercice dans ton groupe. Et ça, je trouve un très, très bon modeling aussi. C'est peut-être là que je vois le plus gros transfert à réaliser. On sait que les enseignants font les grilles en équipe, mais pour avoir vu des enseignants travailler en équipe là-dessus, c'est souvent, je vais dire, au plus persuasif ou au plus expérimenté que revient la décision finale. Et ce n'est pas nécessairement la meilleure décision pédagogique, il faut bien se le dire. Donc, il y a un poids de la culture évaluative dans ces décisions collectives-là qui n'est pas toujours pour le meilleur. Alors, je trouve que de donner du pouvoir aux futurs enseignants, aux enseignants comme personnes légitimes pour donner un avis, à partir d'une formation commune qu'ils ont reçue, pour moi, c'est vraiment gagnant, là.
Encore une fois, là, c'est très inspirant de vous entendre, mesdames, puis ça me fait penser aux travaux de Quintin et Maspéry, 2010, qui, eux, ont travaillé sur la reliance sociale, puis ont analysé à travers des micro-actes du langage en asynchrone à l'écrit différentes formes d'actes, donc commissifs ou directifs, ou de bienveillance, d'empathie. À partir de ces actes commissifs et directifs, on est en mesure d'inférer vraiment le niveau de reliance sociale entre les individus à l'écrit concrètement et le mesurer. Puis c'est très intéressant de le voir, tu sais, notamment ce qu'on disait tout à l'heure, là, quand on dit « oui, je suis d'accord, mais tu sais, il y a comme une diaphonie, on reprend la voix de l'autre puis on se l'approprie pour pouvoir aller plus loin dans notre commentaire. Tu » sais. Mais bon, on se commet aussi en quelque sorte à livrer des rétroactions donc à l'autre. C'est comme une espèce d'entente tacite là, tu sais, qui est prise aussi. Donc, tu sais, ça, c'est une forme de reliance, de se commettre à commenter finalement la production de l'autre. Puis, outre ça, ben toute la dimension de l'alliance là, qui porte vraiment sur les actes purement épistémologiquement bienveillants, là, si on peut dire. Là. Donc, tout ce qui est... Les marques d'appréciation, d'empathie, de remerciement, les vœux, tout ça. Donc, ça serait, je pense, intéressant d'aller analyser finement les interactions puis les commentaires qui sont donnés puis dans le ton qui est donné aussi pour pouvoir investiguer un peu sur l'aspect de la reliance sociale. Du moins, ça pourrait nous faire l'objet d'un autre travail de recherche éventuellement. Donc, merci beaucoup, mesdames. Vraiment, est-ce que vous aviez d'autres choses à ajouter sur cette dimension-là avant qu'on passe à la conclusion?
Non, moi, j'allais juste ajouter, en fait, c'est ça aussi pour reprendre, c'est que les étudiants n'étaient pas aussi, se sentaient pas menacés par les commentaires ou par eux-mêmes l'évasion qu'ils ont portée. Des fois, j'ai l'impression qu'effectivement, qu'on est en personne, on peut un peu se sentir menacé par un peu la performance de un. Donc, tout cet aspect coopératif de travail d'équipe qui est vraiment avec une dimension affective vraiment grande, qui là a été un peu réduite là, par l'aspect plus froid peut-être, ou plus en fait distancé de que la technologie a pu apporter dans ce cas-ci. Là.
Mm-hmm. D'avoir un regard plus objectif, mais d'être en mesure de prendre le temps de bien formuler pour faire attention à l'autre aussi. Là. C'est ça qu'on parle quand on parle aussi de liance en termes de bienveillance et tout ça. Donc, merci beaucoup, mesdames, pour ce témoignage et cette belle discussion. Alors, c'était le balado qui a pour titre « L'évaluation par les pairs à l'aide du numérique, regard croisé sur une pratique déclarée » qui vous a offert une petite incursion dans l'univers de l'évaluation par les pairs en enseignement supérieur. Vous avez été accompagnée par la professeure Isabelle Nizet, la formatrice Marie-Josée Dubois et la conseillère pédagogique Marie-Ève Desrochers au courant de cette aventure pédagogique auditive. Nous espérons que vous aurez pu apprécier le potentiel pédagogique de cette forme d'évaluation et percevoir la valeur ajoutée de la technologie à celle-ci à partir du témoignage et des discussions présentées. Nous vous laissons avec une dernière question. Serez-vous maintenant tenté d'intégrer cette forme d'évaluation dans votre propre contexte de formation? Pour plus d'informations sur le contenu du balado, nous vous invitons à contacter le pôle d'innovation technopédagogique de la Faculté d'éducation à l'adresse pole.education@commercialucherbrook.ca ou à vous abonner à l'infolettre du pôle en consultant leur site web au www.ucherbrook.ca/pôle-éduc/bulletin. Fin de l'affaire. Là, il y aurait un outro avec comme une phrase punchée qu'on jouerait en fin d'autre. Voilà, mesdames!